La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour le quatrième et dernier épisode de notre semaine consacrée à l'écrivaine anglaise Jane Austen. Jane Austen, qui est morte célibataire à 42 ans, mais n'aura cessé de parler du mariage dans ses romans, ce qui ne signifie en rien qu'elle aurait regretté son choix d'une vie sans mari et sans enfant qui lui a permis de se consacrer à l'écriture. Nous parlions lundi justement de cette vie qui reste mal connue dans ses détails, la correspondance de Jane Austen ayant été, il faut le dire, très largement passée par la cheminée afin de laisser d'elle une image plus lisse. Mardi dernier, c'était Sophie Demire qui se trouvait dans ce studio. Elle est revenue sur la question du langage de Jane Austen en convoquant des penseurs comme Jean-François Lyotard ou Giorgio Agamben. Le langage qui est, nous le verrons encore aujourd'hui, au cœur de l'œuvre de l'écrivaine. Hier, trois romans ont été disséqués en direct par deux talentueuses analystes littéraires. Christine Jordis nous a parlé de Mansfield Park et de Persuasion et Dominique Barberis du roman Emma. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, une émission en deux temps avec, pour commencer, le regard subjectif d'une écrivaine et critique littéraire, Marianne Alphand, sur l'œuvre et la vie de Jane Austen, suivie en seconde partie par l'analyse d'Isabelle Bourg, non seulement de l'œuvre en général, mais plus précisément de la réception en France de l'auteur d'Orgueil et Préjugés. Mais ouvrons d'abord cette émission avec un point de vue, vous allez l'entendre, très masculin. Et c'est une archive de l'écrivain et critique italien Pietro Citati.
Pensons à Jane Austen. Cet amour pour la petite réalité quotidienne, les causeries qui font entre eux deux filles en Angleterre au commencement du siècle passé, l'histoire d'une maison, l'amour pour le petit détail, pour tout ce qui se passe et ne reviendra jamais. Et tout ça fait avec aucune condamnation, comme par exemple, disons, la vie quotidienne dans Madame Bovary est condamnée. Pour Emma Bovary, la vie quotidienne dans son pays, c'est épouvantable. Pour Jane Austen, c'est un miracle, une merveille quotidienne qu'elle aime toujours. Ça, c'est très féminin. Vous trouvez ça seulement dans un homme très vigoureux, très masculin, qui était très femme, qui était Tolstoï. Mais cet œil-là, c'est sublime, surtout dans Jane Austen.
Bonjour Marianne Alphand.
Bonjour.
Vous comprenez, vous, ce que veut dire Pietro Citati quand il parle de la littérature de Jane Austen comme d'une littérature féminine ?
Oui, c'est
un peu piégé aujourd'hui.
C'est piégé, oui, c'est piégé. Je crois que c'est assez gênant de se dire ça. Je n'en sais rien.
Parce qu'en même temps, ça résonne aussi.
Ça résonne aussi, bien sûr. C'est tentant de se dire ça. C'est tentant de la relier à ses, en tant que romancière anglaise, à cette spécificité du roman anglais. Dont on va voir évidemment des illustrations brillantes avec les sœurs Brontë, avec Virginia Woolf, etc. Donc elle est là, mais elle est là tellement en retrait, tellement sans revendication, tellement, je pensais tout à l'heure évidemment à ce que demande, à ce que réclame Virginia Woolf, une chambre à soi. De façon à pouvoir travailler, pouvoir se concentrer, pouvoir être soi-même. Il n'y a rien de tel chez Jane Austen. Elle a toujours partagé la chambre de sa sœur, Cassandra. Elles étaient très liées. Et on a une lettre, justement, à Cassandra, où elle est, alors qu'elle est invité par l'un de ses frères le plus riche, qui a un château, etc., une nombreuse famille. Elle va passer quelques jours, une semaine. Enfin, les séjours étaient assez longs en général, parce qu'on voyageait lentement, on se déplaçait lentement, et du coup, on restait un bon moment quelque part. Elle écrit « On m'a donné la chambre jaune ». Et c'est bizarre d'être dans cette chambre sans toi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle n'en profite pas en se disant « Quelle chance, enfin, je vais être moi, je vais écrire, par exemple ». Pas du tout. Donc on ne sait pas ce qu'elle souhaitait pour elle-même, et on ne sait pas par quel miracle, dans cette vie si familiale, si occupée, si pleine de détails, de tâches matérielles, quotidiennes, etc., elle a trouvé, de façon géniale, moyen d'écrire.
Alors, on va revenir avec vous, dans le courant de cet entretien, sur la question de la solitude. Était-elle solitaire ou, au contraire, était-elle entourée ou était-elle même solitaire dans l'agitation? Mais j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de votre rapport personnel à Jane Austen. Il y a quelques années, c'était en 2008, vous aviez publié aux éditions POL un récit sur le thème de la lecture. Ça s'appelait « Petite nuit ». Et vous citez beaucoup de livres, mais vous ne citez jamais Jane Austen.
Parce que je ne peux pas citer tous les livres. Je ne peux pas citer tous les livres, mais si, peut-être que j'évoque... Je me demande si je n'évoque pas Emma, parce que dans ce livre « Petite nuit », j'évoque les situations de lecture, les souvenirs qu'on a d'avoir lu tel livre à tel endroit. Et je sais, par exemple, que j'ai lu Emma, c'est bizarre, en anglais, ça fait un peu prétentieux, mais enfin bon, voilà, à Damas. Bon, voilà, je crois que je le dis dans ce livre.
Et ça a changé quelque chose dans votre perception de Emma ? Il fait quand même très chaud à Damas et on lit quelque chose qui se passe plutôt sous la pluie.
J'étais malade, je cherchais un livre, il n'y avait pas de librairie française. Donc j'ai acheté Emma en anglais, je l'ai lu. Voilà, il y a un charme inouï. Quand on ouvre ces livres, on est complètement à l'intérieur d'un univers qui est pour nous impensable, pour nous, disons, 20e, 21e siècle, qui est un univers agité, plein d'événements, etc. On est dans une espèce de rien, notamment Emma. Hein. Cette vie, cette non-vie d'Emma qu'elle essaye de stimuler, d'agiter en inventant, en imaginant des romans pour d'autres que pour elle. Donc on entre dans un univers où il ne se passe rien et qui est un bonheur total.
C'est votre livre préféré de Jane Austen ?
Non. Je sais que c'est le livre que beaucoup de critiques tiennent pour son plus grand livre. Je ne l'aime pas beaucoup parce que Emma est une héroïne très très agaçante. Je pense que celui que je préfère, c'est Persuasion.
Et pourquoi ?
Parce que c'est celui où j'ai le sentiment que Jane Austen est le plus elle-même. Cette héroïne, ce personnage féminin qui a raté sa vie, qui a raté son mariage. Les fiançailles ont été rompues, elle n'attend plus rien, elle est là, mélancolique, fanée. Et c'est un roman qui est... En plus, évidemment, les romans de Jane Austen, c'est ça le bonheur aussi, se termine bien. Et donc, il y a une espèce de compensation à cet échec qui est merveilleux et qui ressemble à la compensation que Jane Austen, dans sa vie solitaire, a trouvée dans l'écriture.
Alors Jane Austen, vous n'en parlez pas non plus dans un livre un peu plus récent, POL 2013, Ces choses-là, un livre qui porte sur le XVIIIe siècle. On verra tout à l'heure avec Isabelle Bourque que Jane Austen est une femme du XVIIIe siècle. Même chose, vous ne l'aviez pas près de vous à ce moment-là.
Je ne l'avais pas calculé, comme on dit de ceux qui sont à l'entrée des boîtes de nuit et qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas. Alors, la grande question, c'est de savoir si elle appartient au 18e ou au 19e. Je crois que, bizarrement, je la visualise, parce qu'on a une espèce de silhouette, hein, comme ça, sur un horizon. Je la visualise au tout début du 19e, même si, voilà, par son enfance, son éducation, etc. Et disons, les 25 premières années de sa vie, elle est 18e, mais je la vois comme un personnage du 19e. Une, comment dire, l'avant-garde 19e.
Alors on verra justement avec Isabelle Bourg. Vous faites partie de la grande majorité des Français qui l'imaginent dans le 19e siècle, qui l'imaginent même victorienne, ce qui est une erreur. Vous l'apprendrez si vous restez jusqu'à la fin. Alors Marianne Alphand, vous avez fini, après tous ces évitements, par écrire quelque chose sur Jane Austen. Et c'est un livre qui s'appelle « L'une et l'autre », qui est apparu aux éditions L'Iconoclaste. Il y a plusieurs chapitres. On a demandé à 6 femmes d'aujourd'hui de raconter 6 femmes d'hier. Donc il y a Laurette Nobécourt qui raconte Marina Tsetaeva, Cécile Gilbert raconte Christina Ocampo, etc., etc. Et vous, vous avez tout de suite pensé à Jane Austen à ce moment-là ?
J'ai pensé à la comtesse de Ségur et l'éditrice m'a dit « Ah non, c'est désolant, Marie Desplechin a pris la comtesse de Ségur ». Bon, donc ça a été Jane Austen, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Jane Austen ? Est-ce qu'elle vous a appris davantage à vivre ou est-ce qu'elle vous a davantage appris à écrire ? Finalement, quand vous la relisez, quand vous pensez à elle, sur quel plan est-ce qu'elle vous est, je n'ai pas envie de dire la plus utile, je vais dire la plus proche ?
Je crois que sur le plan de la vie, parce que sur le plan de l'écriture, il y a quelque chose de magique chez elle que je ne possède absolument pas et qui est une espèce de vitesse de narration, une espèce de, comment dire, un savoir-faire qui m'éblouit et dont je suis incapable. Donc, pas de leçon d'écriture, mais je crois que dans cette espèce de... Au fond, ce que j'aime chez elle, c'est, ce qui me fascine, c'est sa capacité de faire quelque chose avec rien. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une leçon d'écriture aussi, si l'on peut dire, mais c'est aussi une leçon de vie.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Marianne Alphand pour parler de Jane Austen, cette romancière dont la vie fut, vous le disiez, singulièrement dénuée d'événements, au point qu'on se demande parfois si elle a bien vécu. Est-ce que vous vous posez cette question-là ? Est-ce que vous vous dites parfois, mais au fond, est-ce qu'elle n'aurait pas oublié de vivre ?
Oui, oui, bien sûr. Tout ça, ça lui a manqué, c'est-à-dire que ce sont ses frères et sœurs qui ont l'air de vivre des événements dans leur vie. Il y a 2 frères marins, alors évidemment, c'était l'époque où la marine anglaise menait notamment des combats contre Napoléon, par exemple. Bon, elle est en dehors de ça. Ses frères aînés ont des vies très remplies. Sa sœur, Cassandra, elle a été fiancée. Son fiancé est mort de la fièvre jaune aux Antilles. Bon, tout le monde a eu quelque chose dans sa vie, elle, rien.
Avoir la fièvre jaune, c'est pas super. Donc oui, peut-être qu'il vaut mieux ne pas vivre que de vivre
peut-être,
la fièvre jaune.
Mais enfin, elle a eu un gros événement dans sa vie. Jane Austen, on sait qu'elle a été demandée en mariage par un ami de la famille. Elle accepte le soir et le lendemain matin, elle dit non. Bon. Donc, cette espèce de retrait, je pense qu'elle y tenait aussi. Mais évidemment, pour nous, c'est une vie qui n'a rien d'héroïque. Alors, ça va avec ce qu'elle écrit, au fond. parce qu'il y a dans ses livres une espèce de renoncement au romanesque, si on prend le romanesque sous l'angle de la péripétie, de l'aventure, etc. Il y avait autour d'elle des événements dont elle aurait pu tirer parti. On pense par exemple à sa cousine qu'elle aimait beaucoup, qui s'appelait Elisa de la Feuillide, qui a été mariée à un aristocrate français qui a été guillotiné. Bon, elle n'en fait rien. Il y a l'une de ses tantes qui a été arrêtée pour avoir un vol de dentelle, procès, etc. Bon, finalement, disculpée. Elle ne tire pas parti des événements. On a l'impression qu'elle les a épuisés en les parodiant dans ses écrits de jeunesse. Et ensuite, elle travaille avec, comme elle dit à l'une de ses nièces qui a entrepris d'écrire, deux ou trois familles dans un village.
Trois ou quatre familles dans un village, voilà. C'est exactement là-dessus qu'il faut travailler.
Voilà, oui. Trois ou quatre. Oui. Donc, un romanesque minimal. Et c'est ça qui est très, très beau.
Et vous en tirez une leçon ? Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose pour vous ?
C'est pour ça qu'on dirait que ça pourrait être pré-romantique. Par rapport à, prenons les romans des sœurs Brontë avec de la passion, prenons les Hauts de Hurlevent, prenons Jane Eyre, enfin bon, il y a une espèce de flamboyance, il y a une ardeur, il y a quelque chose de brûlant qu'il n'y a pas chez elle, et prenons ce qui lui est un peu contemporain, prenons, je ne sais pas, les livres, les romans de Madame de Genlis avec leur tunnel moralisant, elle, il n'y a pas un tunnel, ça va très vite, même si ses livres sont épais et pleins d'événements minuscules, elle est dans une espèce de minimalisme qui est au fond extraordinairement moderne. Et je crois que c'est pour ça que nous l'aimons autant.
Alors vous citez dans votre livre une phrase que j'aime bien, qui est une phrase de Jane Austen, qui dit, je crois que ça doit être une lettre à sa sœur, « Tu sais comme je peux m'intéresser à l'achat d'un cake ».
Oui.
C'est ça, Jane Austen, quand même.
C'est ça, c'est pour ça, vous le disiez tout à l'heure, c'est le contraire de Madame Bovary. Enfin non, c'est Pietro Citati qui le dit. C'est le contraire de Madame Bovary. Le quotidien ne l'ennuie pas. Elle est forcée, elle a été forcée par les événements de sa vie familiale, de se contenter de ce qu'elle avait sous la main, et elle en tire un parti éblouissant.
Vous diriez qu'elle arrive à sublimer finalement la banalité, parce que, et d'ailleurs ça rappelle un certain nombre de ses personnages aussi, il y a des personnages qui sont banals hein, chez Jane Austen, mais précisément elle arrive à en faire quelque chose toujours.
Oui, elle arrive à en faire quelque chose toujours, et alors justement les petites choses, le cake, ou ça peut être un châle jaune, ou ça peut être un panier avec des rubans, ou ça pourrait être une boîte. Enfin, dans Emma, par exemple, il y a le second rôle, Harriet, pour laquelle Emma cherche, rêve d'une histoire d'amour, etc. Harriet a une petite boîte dans laquelle elle conserve des trésors, un petit bout de taffetas gommé qu'un homme qu'elle aime en secret avait détaché de sa main un jour où il s'était blessé, ou un petit bout de crayon, ou un petit papier. Bon, elle est dans les toutes petites choses. C'est ça qui est ravissant, d'ailleurs. Hein. C'est ces petits détails, c'est un petit étui à couture. Quand Fanny, par exemple, de Mansfield Park, n'a pas d'autre horizon que de s'occuper d'aider sa tante à faire des franges à son ouvrage de tapisserie ou de broderie. C'est ces petites choses absolument simplissimes, mais qui, enchâssées dans une vie quotidienne, au fond, à la fois très banale et très merveilleuse, produisent des espèces de scintillements miniatures partout dans ses livres.
Et ça, on arrive quand même à le retrouver dans la correspondance qui, malheureusement, a été, on le sait, expurgée par Cassandra.
Cassandra,
c'est triste,
oui.
Parce que Cassandra aimait beaucoup Jane Austen, et Jane Austen aimait beaucoup Cassandra, donc c'est un petit peu un sentiment de trahison quand même qu'on a quand on en apprend que cette correspondance finalement est partie en fumée, mais tout de même une correspondance dans laquelle on arrive encore à trouver ces petites choses dont vous parlez, quelques private jokes, des potins, des rapports de la mode de tel ou tel endroit. Donc il y a ces toutes petites choses, et puis il y a aussi toute une part de la production de Jane Austen qui pourrait s'apparenter à ces toutes petites choses et qui sont ce qu'elle a écrit quand elle avait 12, 13, 14, 15 ans et qui sont ces juvénilia. Vous en parlez dans votre livre. Il y a des scénettes de théâtre, il y a une parodie d'Histoire d'Angleterre. Est-ce que ça vous touche aussi ces petites choses de l'adolescence qu'elle a écrites quand elle était adolescente?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a, une espèce de, on voit une espèce de personnalité brillante, vivante, innovante, complètement singulière, avec un humour, une causticité, une manière de jouer avec les codes. Bon, prenant une héroïne, racontant l'histoire d'une héroïne, mais évidemment, elle est laide ou elle est ivrogne ou elle est C'est des situations qui sont complètement subversives pour une petite fille. Elle fait ça. On se dit, que va-t-elle devenir ? Voilà. Et elle devient tout à fait autre chose. Elle n'écrira pas des romans, des grands romans, à épisodes, à événements, à sensations, à drames. Elle n'écrira pas de romans. Elle n'est pas dans la théâtralité. Elle est dans la retenue.
Parlait Marianne Alphand au tout début de cette émission, la question de la solitude de Jane Austen. Diriez-vous précisément, elle qui n'a jamais eu une chambre à elle, pour reprendre le titre du livre de Virginia Woolf, est-ce que vous diriez qu'elle a été pourtant seule ?
Je pense qu'elle l'a été d'une certaine manière et que la grande question peut-être pour elle, c'était d'arriver à se créer un peu de solitude pour écrire. Alors on sait qu'elle travaillait, pas de chambre à elle, la pièce familiale où elle écrivait, elle avait un petit bureau derrière une porte qui grinçait et elle tenait beaucoup à ce que la porte grince parce que ça lui permettait d'arrêter d'écrire si quelqu'un arrivait. Donc il y a quelque chose qui se fait comme ça en cachette, en sourdine, avec une extraordinaire discrétion. C'est parmi ses proches, par exemple des neveux qui étaient assez proches d'elle, ne savaient pas qu'elle écrivait. Quand l'un d'entre eux, après la publication d'Orgueil et Préjugés, dit « J'ai lu un livre extraordinaire », il est stupéfait d'apprendre que c'est sa tante. Cette tante Jane, qu'on trouvait très charmante, très sympathique, qui s'occupait de ses neveux et nièces, etc., mais qu'on ne trouvait pas en aucun cas extraordinaire. Voilà.
Même donc elle arrive. Ne savait pas.
Non, personne ne le sait. Voilà. Et elle-même, elle n'a jamais vu son nom sur un livre. Ses livres ont été publiés sans son nom, même si la chose a fini par se savoir un peu. Mais donc, elle a été obligée de se créer une espèce de solitude tout à fait extraordinaire dans un monde où elle est tout le temps gênée.
Une solitude pour parler du couple. Une solitude pour écrire sur le couple.
Pour écrire sur le couple, pour écrire sur le mariage, pour écrire sur les aspirations des jeunes filles, pour écrire sur l'amour, pour écrire... Voilà, elle écrivait d'ailleurs assez rapidement. Et c'est tout ça aussi, c'est très mystérieux. Comment fait-elle ? Comment arrive-t-elle à se ménager des espèces de moments comme ça, de création ? Alors il y a dans ses romans... elle aimait beaucoup Elle était une marcheuse. Elle dit qu'elle aimait la promenade et qu'elle était une desperate walker. Et donc, elle, il y a toujours dans ses romans cette histoire du bosquet, du petit endroit un petit peu écarté dans le jardin. Et on, évidemment, les personnages de ces les femmes, les jeunes filles de ces livres vont souvent se retirer pour lire une lettre ou pour être un peu tranquille dans un bosquet. Donc on l'imagine, on a peine à l'imaginer, dans cette vie comprimée comme ça, avec une mère qui était certainement très... Voilà, qui demandait qu'on s'occupe d'elle et puis qui était tout le temps portée à aller chez les uns et les autres. Bon, c'était une vie... un dérangement permanent. Donc, le miracle, c'est que dans ce dérangement, elle trouve une espèce de recueillement. Elle arrive à s'aménager quelque chose qui lui soit totalement personnel.
Et d'ailleurs, vous avez intitulé l'un de vos chapitres, si on peut parler de chapitres à l'intérieur de ce texte relativement court, Only Jane.
Only Jane, oui. Ça, c'est une référence au personnage de Persuasion, Anne Elliot, qui ne compte pas dans la famille, c'est la deuxième fille. Bon, elle n'a pas d'existence, elle n'a pas d'importance. Et on ne lui demande jamais son avis, elle est seulement Anne. Et voilà, c'était tout à fait Jane Austen dans sa famille. Elle n'était rien, elle n'était pas, elle n'avait pas d'enfant. Elle passe toujours après les autres, elle est seulement Jane.
De qui rapprocher Jane Austen? Vous tentez un rapprochement avec un peintre, Turner, pour quelle raison? Qu'est-ce qui les rapproche selon vous, à part évidemment la contemporanéité?
Oui, mais je pensais à ces petites aquarelles, à ces petites esquisses de Turner, ces intérieurs où on voit des espèces de silhouettes, dans des salons qui sont simplement des taches de couleurs. Cette espèce de manière formidable qu'a Turner d'évoquer une société à partir de rien, de taches de couleurs. Bon, elle, on va dire qu'avec très peu de choses, elle construit, elle reconstruit une partie de cette Angleterre du début du 19e siècle.
Donc à l'aquarelle, comme d'ailleurs dans Mansfield Park, où on évoque une aquarelle.
Oui, bien sûr. Alors elle-même, je crois qu'elle n'avait aucun don pour le dessin. D'ailleurs, elle est toujours comme ça. Elle ne joue pas du piano, elle n'est pas une jeune fille accomplie. Voilà. Elle n'a aucune disposition particulière. Bon, elle en a une, évidemment, géniale, formidable et secrète pour l'écriture. Mais alors, je ne pensais pas du tout au grand tableau de Turner. Il y a évidemment cet événement de la lumière chez Turner, mais plutôt à ces petites choses, à ces petites aquarelles qui ont un charme absolument inexprimable.
Et vous la rapprochez aussi, c'est peut-être plus inattendu encore, de Nathalie Sarraut.
Oui, parce que Nathalie Sarraut, d'ailleurs, elle a évoqué ça. Elle disait devoir beaucoup à Ivy Compton Burnett, à la sous-conversation, à tout ce qui est le non-dit de la vie sociale. Et Jane Austen, elle est... Voilà, il y a ceux qui s'expriment beaucoup, qui sont souvent des seconds rôles, qui en rajoutent, qui sont, bon voilà, qui font état de leurs sentiments ou de leur vie. Et puis il y a ceux qui observent avec une empathie, qui sont en général évidemment les héroïnes de Jane Austen, comme Fanny Price dans Mansfield Park ou évidemment Anne Elliot dans Persuasion, et qui pénètrent tous les dessous des conversations.
Et Fanny Price, c'est pour vous Jane Austen?
Fanny Price, oui, et Anne Elliot, les deux.
Vous diriez pour terminer qu'elle a eu une vie décevante, Jane Austen?
Alors, décevante à quel point? Je pense que, d'une certaine façon, elle a eu, par l'écriture, son accomplissement, sa revanche et une espèce de bonheur. Ah oui, absolument. Absolument. C'est une vie très apparemment stérile, apparemment ratée et totalement réussie.
Peut-être faut-il une vie décevante pour que tout soit donné par l'écriture.
Mmh.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Restez avec nous, Marianne Alphand. Mais au mi-temps de cette émission, nous retrouvons à présent nos amis de l'Obs qui viennent tous les jeudis nous parler de ce que l'on pourra lire dans les pages culture de cet hebdomadaire. Pascal Mérigeau est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et c'est bien sûr du cinéma que vous venez nous parler, car c'est de cela que vous vous occupez à l'Obs dans cet auguste journal. Alors vous êtes venu directement, je crois, d'une projection. Vous courez de projection en projection et oui, vous allez nous raconter ici au micro de la compagnie des auteurs ce que l'Obs nous conseille d'aller voir.
Oui, vous savez, il sort beaucoup de films nouveaux chaque semaine, donc c'est vrai que c'est très difficile de tous les voir. Cette semaine, il en sort 11 nouveaux, ce qui est, on a presque envie de dire 11 seulement, parce qu'il y a des semaines où il y en a beaucoup plus. Quelquefois, il y en a 15, quelquefois même davantage. Ce qui est amusant, c'est que les 11 films, ça veut dire que les distributeurs de ces films doivent tout faire pour qu'ils existent, et donc ils doivent dépenser de l'argent, s'ils ont les moyens, pour les faire exister, pour que les films apparaissent sur les affiches, etc. Alors je voulais, juste dans l'introduction, penser que certains d'entre eux, certains des distributeurs, vont considérer avec, une ombre de jalousie, ce qui s'est passé la semaine dernière à Téhéran. Mercredi de la semaine dernière, le 31 août, était le jour de sortie iranienne du film d'Ashghar Farhadi, Le Client, doublement primé à Cannes, prix d'interprétation masculine pour Shahab Hosseini et prix du scénario. Le Client, qui sortira en France le 9 novembre, a été présenté en Iran pratiquement sans aucune promotion, à peine quelques affiches prêtes au tout dernier moment, enfin pratiquement rien. Ce qui fait que les gens, depuis la France, se demandaient « Mais comment est-ce possible ? Pas d'avant-première, rien du tout. » Et le film est sorti dans 18 salles à Téhéran. Il a été vu le premier jour par 26 000 spectateurs, ce qui est un record absolu pour un film de cette catégorie-là, un film iranien de cette catégorie-là. C'est le meilleur démarrage de tous les temps, avec des places réservées plusieurs jours à l'avance. Et cet engouement a conduit certaines salles à organiser une première séance à 6h45 le matin.
C'est l'effet Cannes, ça ?
Non, je ne pense pas que ce soit l'effet Cannes. Enfin, quand Farhadi est arrivé, revenu de Cannes avec ses prix, il a été très bien accueilli à l'aéroport. Je pense pas que ce soit l'effet Cannes. Alors, on a dit que le film déplaisait ou déplairait à certains milieux conservateurs. On a laissé entendre que cela risquait de demander et d'obtenir l'interdiction du film. Alors, est-ce que ça a pu inciter les spectateurs à se précipiter pour anticiper le passage de la censure ? C'est possible. On peut aussi penser que les promoteurs du film ont actionné ce mécanisme qui a pu leur permettre précisément de ne pas dépenser trop d'argent pour la promotion. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que si en France, on pouvait utiliser ce genre d'argument, on en connaît quelques-uns qui ne s'en priveraient pas. À commencer par Memento Film, peut-être, qui est le producteur et distributeur français du film, et auquel on souhaite de connaître un succès digne de se rencontrer par d'autres films iraniens, parce qu'il faut dire qu'en France, des films iraniens ont très très bien trouvé leur public. C'était Taxi Téhéran, Jafar Panahi, qui a été vu par 600 000 spectateurs. Et Une séparation du même Ashghar Farhadi qui lui a été vu par près d'un million de spectateurs. Mais il est vrai qu'en Iran, choisir d'aller voir un film peut aussi être une manière d'affirmer un choix politique, ce qui est rarement le cas en France, disons. En tout cas, pas cette semaine, en tout cas.
Et puis j'ai vu également dans l'Obs que vous évoquiez Franz de François Ozon, qu'on peut voir tout de suite parce que Le Client, donc il faudra attendre jusqu'au 9 novembre, oui. C'est ça. Franz de François Ozon et puis Comancheria de David Mackenzie.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'un ou l'autre ? C'est un film qui est réalisé par un cinéaste anglais. C'est un film américain réalisé par un cinéaste anglais qui s'appelle David Mackenzie. Et très souvent, le regard porté par un étranger sur un pays est intéressant, et c'est le cas ici. C'est un polar au pays du western, ce qui est extrêmement bien fichu. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les personnages et l'histoire qu'ils vivent correspondent très précisément à tout ce que Hollywood d'aujourd'hui ne veut plus. C'est-à-dire que c'est le tableau d'une Amérique rongée par la crise, des portraits de déclassés qui tentent de survivre comme ils peuvent, ceux-là en braquant de petites agences bancaires du Texas. C'est le portrait aussi des flics qui les traquent et qui, à bien des égards, leur ressemblent. En tout cas, il n'y a absolument rien de consensuel dans ce cinéma-là. Donc c'est le contraire de Hollywood. C'est le contraire du Ben-Hur qui sort aussi aujourd'hui en 3D, nouvelle mouture par la Paramount, etc. C'est l'exact opposé. Et les acteurs, je dois dire, sont excellents. Il y a Chris Pine, Ben Foster et aussi Jeff Bridges qui joue le rôle du Texas Ranger et donc qui est un des acteurs les plus intéressants américains depuis 40 ans.
Donc on retient que vous nous le conseillez, c'est ça ?
Je vous le conseille.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Mérigeau. Et puis on vous retrouvera dans les colonnes du Nouvel Observateur pour la critique de tous les autres films, ceux dont vous n'avez pas eu le temps de parler ici. Isabelle Bourg est professeure des universités à Paris 3. Elle travaille notamment sur la réception des romans anglais en France et elle vient nous parler de Sarah Jane Austen et aussi de la confusion concernant la manière dont on la lit chez nous en France.
Les réunions dansantes au parc commencèrent et les promenades sur l'eau se succédèrent autant que le permis d'un octobre pluvieux. Willoughby était de toutes les réunions de ce genre et l'atmosphère qui présidait était exactement ce qu'il fallait pour resserrer son intimité avec les Dashwood. Elle lui fournissait l'occasion d'apprécier les mérites de Marianne, de lui marquer son admiration croissante et de trouver, dans son attitude envers lui, l'assurance la plus marquée de son affection. Leur attachement mutuel n'avait rien de surprenant pour Elinor. Elle aurait seulement aimé qu'il s'affichât moins et une ou deux fois, elle se hasarda à suggérer à Marianne l'opportunité d'un peu de retenue. Mais Marianne avait horreur de toute réserve quand elle n'était pas absolument obligatoire. Et retenir l'expression de sentiments qui étaient innocents en eux-mêmes lui semblait constituer une peine bien inutile. Elle y voyait même une méprisable concession de la raison aux préjugés. Willoughby pensait de même et leur conduite à tout instant était une illustration de leurs opinions.
Un extrait de Raison et Sentiment, lu par Anne Brissier. Bonjour Isabelle Bourg.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors, même punition que pour Marianne Alphand, est-ce que vous avez un roman favori parmi les six qu'a produit Jane Austen ?
Alors, pas vraiment.
Vous allez nous dire qu'ils se ressemblent tous peut-être ?
Bon, le plus parfait d'un point de vue formel et technique, c'est M1. Bon, le plus populaire, c'est Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugé. Bon, celui sur lequel je travaille en ce moment avec les agrégatifs, c'est Raison et Sensibilité, comme il faudrait dire. Et je dois dire que je l'ai trouvé extrêmement complexe, en fait, idéologiquement. C'est le premier qui a été publié en 1811. Et il est finalement beaucoup plus polémique que des romans plus tardifs, vous voyez. Bon, ils sont tous critiques, les romans de Jane Austen, mais comme vous le suggériez, madame, souvent de façon un peu sous-jacente et très subtile. Mais dans Sense and Sensibility, il y a une critique beaucoup plus explicite, dont une critique de la sensibilité. Donc j'ai trouvé que vous aviez choisi cet extrait vraiment de façon admirable.
Qu'est-ce qu'il dit pour vous, cet extrait ?
Eh bien, il montre bien que Austen avait une visée idéologique critique dans ce roman-là. Parce que vous avez donné le titre, qui est le titre habituel, hein, Raison et Sentiment.
Enfin, il y a beaucoup de titres. D'ailleurs, on pourra se demander pourquoi il y a tant de traductions.
J'y compte bien.
En français de ce titre-là.
Il y a le titre de la Pléiade qui est particulièrement mauvais, il faut bien le dire. Ah, c'est le cœur et
Monsieur
la raison.
Monsieur Gobert, si vous nous entendez, oui, traducteur de la Pléiade.
C'est le cœur et la raison. Sa traduction est excellente, mais le titre est très mal choisi. Parce qu'en fait, si vous voulez, Austen-là, elle s'en prend un modèle épistémologique, disons un modèle qui est le modèle de la sensibilité, qui a dominé toute l'esthétique et l'éthique de la fin du XVIIIe, pas seulement en Angleterre, d'ailleurs en France aussi, il y avait cette vogue de la sensibilité. Et donc, c'est un modèle qui avait un ancrage médical. Au XVIIe siècle, on découvre le système nerveux, on s'y intéresse beaucoup, on se demande finalement comment il marque les comportements. Ces découvertes médicales se greffent la philosophie de John Locke, qui est empiriste, hein, puisqu'il dit que que toute la connaissance est ancrée dans l'expérience. Hein, donc ça conduit à une épistémologie sensationniste, enfin si vous voulez, à une espèce de mise en avant des affects, disons. Là-dessus se greffe aussi la philosophie du sens moral du début du XVIIIe, la philosophie de Charles Perry, qui considère qu'on a un sens moral. Alors c'est vrai qu'il y a une tension entre la mise en avant des sens, si vous voulez, et l'idée du sens moral. Il y a une tension, mais néanmoins, ces deux aspects-là s'agglomèrent dans ce modèle de la sensibilité qu'on trouve chez Stone, par exemple, mais qui fait fureur et qu'on trouve aussi beaucoup dans la peinture, par exemple, avec la vogue des scènes, de scènes larmoyantes, etc. Donc
ça signifie, selon vous, oui, que Jane Austen est imprégnée de ce qui l'entoure, ou ça signifie qu'elle a lu des philosophes, oui, des scientifiques?
Alors, attendez, ça c'est le modèle, si vous voulez, qui trouve une expression dans la morale et dans l'esthétique, avec cette vogue d'un roman de la sensibilité où les affects sont exacerbés, où en fait le sentiment spontané, c'est le sentiment qu'on considère comme le bon sentiment, c'est-à-dire que voilà, on ne fait pas appel à la raison pour choisir de faire telle ou telle chose, on en appelle à ses propres affects. Et l'exemple que vous avez choisi, là, l'extrait de Sense and Sensibility est tout à fait approprié, puisqu'on voit bien là que Marianne ne cache pas ses affects, si vous voulez. Elle montre son affection pour Willoughby, alors qu'elle devrait être plus réservée. Et effectivement, elle devrait être plus réservée. Donc il y a ça, si vous voulez, il y a cette espèce d'élan comme ça affectif chez Marianne. Et il y a aussi le fait qu'elle considère que ses affects constituent un bon guide moral. Quand elle va avec Willoughby, vous savez, ils partent là dans une élégante petite voiture, visiter la maison de Madame Smith, chez qui réside Willoughby, alors que la propriétaire n'est pas là, ça ne se fait pas du tout. Donc elle visite la maison et Marianne se voit déjà propriétaire, en quelque sorte. Elle envisage même des travaux au salon. Quand elle revient, sa sœur lui fait des reproches. Et Marianne dit, mais écoute, si j'avais mal agi, je l'aurais senti. Et si vous voulez, ce que Jane Austen rejette, c'est ça. C'est cette espèce, c'est cette éthique qui est fondée dans l'affect.
Alors vous parlez donc déjà finalement de l'époque dans laquelle a écrit Jane Austen, l'époque qui n'est pas l'époque victorienne. Et vous avez écrit un article dans la Revue des Deux Mondes en 2013 où vous montrez que la critique française, et on en arrive à la réception de Jane Austen en France, que la critique française ne connaît pas grand-chose, voire ne l'a pas lu, car pour une grande partie de la critique française, Jane Austen égale époque victorienne. Alors d'où vient cette confusion, en réalité?
Bon, d'abord, il y a le fait que les Français savent peu de choses de l'histoire anglaise ou de l'histoire britannique. Alors, on connaît un peu la période élisabéthaine, bon, peut-être un peu mieux, parce que je crois qu'il y a eu des feuilletons récents, là, situés à la période Tudor. Donc, il y a cette vague représentation de l'époque Tudor. Et puis, sinon, on connaît la période victorienne, qui pour beaucoup est un peu l'Angleterre éternelle, si vous voulez. C'est les femmes en dentelle, la répression des affects, une société un peu étouffante. Bon, et ça c'est la vie sociale, et puis ça se conjugue à une représentation de la campagne anglaise avec des collines verdoyantes.
Mais c'est pas comme ça l'Angleterre?
Jane Austen, c'est pas comme ça du tout, parce qu'elle n'avait pas du tout une imagination visuelle. En fait, elle ne représente rien, quand vous y réfléchissez. Et les portraits des personnages tiennent en deux ou trois lignes, en général. Dans Sense and Sensibility, il y a deux portraits des personnages, mais ça tient en deux ou trois lignes. En général, à l'époque, pour dire qu'une femme était belle, on disait qu'elle avait des traits symétriques. C'était le critère, si vous voulez. Voilà, elle était parfaitement symétrique.
Il paraît que c'est toujours comme ça. Il paraît que plus on est symétrique et plus on est officiellement beau.
Ouais. Oui. Mais Marianne, vous voyez, dans le livre, enfin dans le roman, elle est grande, elle est anormalement grande et elle est brune. Dans tous les films, elle est blonde.
Donc les films ont déformé un petit peu.
Tout beau, considérablement.
Les films ont victorianisé alors.
Oui, considérablement. Oui, et encore plus, je regrette de le dire, encore plus les lectures de la critique de ces films, parce que ils n'ont pas lu Jane Austen pour beaucoup, ils ont lu un roman il y a fort longtemps. Ils connaissent un peu l'Angleterre, et donc oui, Victorianise Austen.
Alors, on va pas tourner autour du pot, hein. On va dire les choses, et on va dire que Libération, par exemple, journal où vous avez travaillé, Marianne Alphand, je vous montre du doigt, dit des choses erronées, par exemple, je vais vous laisser le dire, Isabelle Bourg. Non, vous préférez que je le dise, d'accord. Alors, par exemple, à propos du premier volume de la Pléiade des œuvres romanesques complètes, un rapprochement a été fait dans ce journal entre l'idéal type de la jeune anglaise du 18e et celui de la vieille anglaise du 20e siècle, insinuant que la jeune anglaise du 18e annonçait la vieille anglaise du 20e siècle. Autrement dit, pour ce journaliste, Jane Austen, c'est Agatha Christie. C'est un petit peu ça. Donc il n'y a pas de différence en fait entre deux siècles.
Absolument, il y a un continuum parce que c'est l'Angleterre éternelle, vous voyez, qu'on retrouve chez P.D. James, qu'on retrouve chez Agatha Christie. Oui. Donc c'est cette lecture-là, parce que les Français n'ont pas de représentation de la Régence. Comme vous le disiez, Austen, elle a vécu surtout sous le règne de Georges III, et après, pendant la Régence, puisque Georges III est devenu fou, et c'est son fils qui est devenu régent.
Marianne, vous voulez pas quand même dire un mot et défendre un peu vos collègues de Libération ?
Non, je ne les défendrai pas. Là, je dirais que ça, c'est une grosse erreur. Je pense que la seule représentation qu'on a en France de cette période de la Régence, c'est Barbara Cartland. Donc, ce qui n'est pas une très bonne introduction à Jane Austen.
Je ne peux pas vous.
Ah si, il faut.
Je ne peux pas m'arrêter plus. Mais si vous voulez, en Angleterre, on se représente la Régence. En fait, esthétiquement, c'est une esthétique néoclassique. Hein. En fait, c'est comme on trouve en France sous Louis XVI, sous la période napoléonienne. C'est une esthétique néoclassique, y compris dans le vêtement. Mais les Français, quand ils lisent Austen, si vous voulez, cette Régence-là, ça ne leur parle pas visuellement. Donc, du coup, ils projettent ce qu'on connaît, c'est-à-dire... une esthétique beaucoup plus victorienne à tous égards.
Alors, dans le journal Elle aussi, du 26 octobre 2012, vous dénoncez beaucoup, Isabelle Bourg. Vous dénoncez cette phrase. Pour trouver l'âme sœur, mieux que mythique, il y a la méthode victorienne.
Oui.
Donc ça, c'est aussi à propos de Jane Austen.
Oui. Alors, là encore, il y a cette erreur. J'ai essayé de montrer qu'effectivement, il y avait ce porte-à-faux là, chronologique quand même assez criant, puisque Austen est morte en 1817 et Victoria est montée sur le trône en 1837. Donc, il y a 20 ans entre les deux. Mais ce qui est intéressant, en revanche, et c'est là que c'est que ce que voulait dire dans cet article de Elle, c'est qu'en fait, Austen, elle conseille la prudence, au sens fort qu'avait le terme à l'époque, prudence, et elle pense que il faut choisir un conjoint avec le plus grand soin, et c'est ce que montrent ses romans, finalement. Donc, en fait, là, elle faisait la promotion de cette, d'une attitude prudente.
Alors, si on la comprend mal en France, ce n'est pas uniquement parce que les journalistes ne l'ont pas lu ou l'ont mal lu, c'est aussi parce que elle aurait été, nous dites-vous, mal traduite.
Oui. Alors, ça, c'est vrai depuis le début. Alors, je vais évoquer là encore, brièvement, la traduction de Sense and Sensibility par Madame Isabelle de Montolieu, qui était romancière et traductrice. Donc, en 1815, elle traduit Sense and Sensibility, auquel elle donne d'ailleurs un bon titre. Elle l'appelle Raison et Sensibilité. Elle voit bien que la sensibilité est un enjeu. Mais elle, c'était une romancière, justement, qui avait embrassé cette vogue de la sensibilité. En 1786, elle a publié un roman qui a eu beaucoup de succès dans toute l'Europe, Caroline de Lichtfield, où il y a, toutes ces traits caractéristiques de la sensibilité. Et donc, quand elle voit Austen, qui, justement, prend le contre-pied, ça ne lui convient pas du tout. Donc, elle a introduit des scènes pathétiques, par exemple, Marianne découvrant que Willoughby va la délaisse, tombant évanouie au pied d'un joli petit temple néoclassique.
Et donc, ça, c'est pas l'éditeur, vous croyez ?
Brandon, non. Elle a beaucoup ajouté d'épisodes, alors qu'en général, les traducteurs élaguent. Et aussi, elle trouvait que la fin, là, ce Willoughby, qui épouse sa riche héritière et dont on nous dit qu'il n'était pas malheureux tout le temps, ça ne lui va pas. Donc, elle fait mourir la femme de Willoughby, la riche héritière, ce qui le laisse quand même riche, ce qui n'est pas mal, et il se rachète en épousant la jeune femme qu'il avait séduite. Donc, la fin est plus morale, et le roman lui-même est nettement plus, chargé, comme ça, de scènes pathétiques.
Comme quoi, Marianne Alphand, vous avez raison de le lire en anglais.
Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un charme unique quand on lit en anglais. Et quand on lit les différentes traductions, là, je suis comme Isabelle Bourg, très très critique à l'égard des traductions, parce que quand on adore ces livres, on est sensible à toutes les exagérations. Il n'y a rien d'exagéré chez Jane Austen. Et quand on voit, par exemple, dans l'une des traductions que Jane, par exemple, la sœur d'Elizabeth Bennet, Jane Bennet, est en passe de devenir éperdument amoureuse, c'est pas ça du tout. Il n'est pas question chez Jane Austen d'être éperdument amoureux, d'aimer beaucoup, oui.
Qu'est-ce qu'on perd ?
Very much in love.
Qu'est-ce qu'on perd, Isabelle, ce passage au français ? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des traductions qui sauvent Jane Austen et que vous pourriez du coup conseiller ?
Oui, c'est bien sûr. Plus on avance dans l'histoire, là c'était un cas extrême, hein, Isabelle de Montolieu. Bon, mais quand même, la tendance à l'élagage a duré plus d'un siècle. Hein. Mais plus on avance dans le temps, plus les traductions sont précises. Bon, ce que j'aimerais souligner, c'est que pendant presque un siècle, et ça contribue à cette espèce de mauvaise compréhension de l'œuvre d'Austen, on n'a pas traduit le discours indirect libre. Je vous rappelle que le discours indirect libre, donc c'est du récit à la troisième personne, au un temps du passé, hein, comme dans tout récit, mais on supprime les marques grammaticales qui marquent l'origine des pensées. Par exemple, j'ai un exemple là de Emma, il s'agit du père d'Emma Woodhouse, qui est hypochondriaque, inquiet, et donc il faut faire un petit déplacement. Alors on nous dit, il craignait que la route ne soit très mauvaise, il craignait que cela ne plaise pas à la pauvre Isabella. Donc là, on est au discours indirect, hein. il craignait, et après, on passe, et donc on nous donne ses pensées, et Emma serait dans la voiture juste derrière, il fallait que, dans toute la mesure du possible, ils restent ensemble. Donc on entend plusieurs voix dans le discours indirect libre, on entend la voix du narrateur et la voix du personnage, et ça permet toutes sortes d'effets d'ironie. Et quand on supprime ça, en général, au 19e, on remplaçait le discours indirect libre par du discours direct, on remplaçait par du dialogue. Eh bien, on perd tout ça, et donc on perd l'ironie. Et l'ironie d'Austen, enfin, de nos jours, c'est quand même frappant. Ben, croyez-le si vous voulez, mais il y a le premier critique qui a parlé d'ironie chez Austen, c'était au début du XXe siècle.
Alors qu'en Angleterre, effectivement, elle est très très populaire, et elle est très populaire, c'est beaucoup par cette ironie, à cause.
Voilà. Enfin, les gens lisant d'abord le texte tel qu'en lui-même, étant habitués au discours indirect libre, parce que c'est une forme beaucoup moins utilisée en français qu'en anglais. En anglais, par exemple, les débats parlementaires, ils sont rapportés entièrement au discours indirect libre. Donc les Anglais, ils ont l'habitude de cette forme grammaticale, vous voyez.
Et bon, ça correspond à quelque chose de l'univers anglais, de la manière de penser. C'est une vaste question, je suis bien d'accord.
Ben écoutez, c'est quelque chose qui est apparu, c'est une question très intéressante, c'est quelque chose qui est apparu en tous les cas dans la littérature à la fin du XVIIIe siècle, sans doute avec Francis Burney, et ça correspond à une espèce de basculement de la représentation de l'intériorité des personnages. Parce qu'au XVIIIe, il y avait beaucoup de romans épistolaires, donc les romans épistolaires, ben, on entend les voix des diverses personnes qui écrivent des lettres, et au XIXe, on passe à la troisième personne, mais pour rendre compte, en fait, des affects, des pensées, il y a cette espèce de surgissement du discours indirect libre, et ça, Austen, c'est la première à l'employer vraiment beaucoup. Elle l'emploie beaucoup déjà dans Pride and Prejudice, et de plus en plus dans Emma en particulier. C'est pour ça qu'Emma est en général considérée comme le grand chef-d'œuvre, parce qu'il y a vraiment une espèce de polyphonie comme ça, tout à fait extraordinaire, vous voyez.
Très bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Est-ce que l'une et l'autre souhaitaient rester encore quelques minutes pour entendre Jacques Bonnafé ?
Volontiers.
Bonjour, Marie-Claire Bancard revit. Nous respirons avec elle les pages poèmes d'un qui vient de loin paru au Castor Astral. Nous partageons même ses emportements salutaires, vitaux. À la page 54, nous ne voulons pas payer à plein tarif votre catalogue d'inquiétudes. Endosser la perte des dieux, baisser la voix sur des titres de journaux, des complots, nous refusons le vaste embarquement vers le naufrage. Nous nous retirons dans notre domaine, étroit, c'est vrai, comme les flancs de la baleine pour Jonas, mais vivable. une capitule de chardon serrée sur une abeille. Plus tard, en toi je me retire comme dans une île habitée de musique et de mots. Seul pourtant, au milieu d'une mer muette, une île qui peut bouger, qui peut aimer, qui se suffit à elle-même. À la page 59, la petite couche de vie sur la terre, encore mystérieuse, peut-être non partagée par les autres planètes. À la page 61, cela ne vous dérange pas de traîner derrière vous un début d'existence poisson, sans compter auparavant encore la naissance d'une cellule anonyme qui fut précédée par on ne sait quoi. Page 62, comme si les rêves puisaient dans une matière où nous serions des êtres différents. Ma face nue devant sa face voilée, je l'ai vue, mais sans le reconnaître, tout en sachant que c'était lui, qu'il était l'être tant cherché. Mais il se dispersait en minces, attirantes imaginations, évanouies à mon réveil, qui fut regret. Figure créatrice ou tentation, en tout cas le voile resta sur son visage. Comment vivre dans une maison sans jardin, sans amour, repliée sur toi, malheureuse? Allume une lampe rouge, fais le compte de tes amis. Tente de transporter chez toi une petite divinité agraire qui prendra la forme du pain. Une assiette, un peu de lune, tu vas les installer ensemble sur la table. Ainsi la maison sera douce à ton cœur. Peler un œuf, un avocat, soulever la croûte d'une écorchure, plaisir de porter au jour une intimité, mais crainte de toucher à ce qui protégeait la vie, caché dans la chair maintenant à nu, humble découverte du mystère quotidien. Rien n'est plus triste que la tristesse, plate, sans fin ni horizon, la petite pluie bat. Une télévision éteinte cligne à chaque minute dans notre cœur bat son clignotement. Lueur des voitures à la fenêtre, c'est le soir, aucun rendez-vous, surtout pas avec soi-même. L'esprit est blanc comme les murs.
Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Voilà, c'est de circonstance après une série d'émissions sur Jane Austen. On est quasiment en train de boire le thé en écoutant religieusement tous ensemble Jacques Bonnafé dans la compagnie des auteurs. Merci beaucoup Isabelle Bourg, merci beaucoup Marianne Alphand pour ses regards portés sur l'œuvre de Jane Austen ainsi que sur sa réception en France. Je signale au passage la parution très prochaine, ce sera le 14 septembre, de votre édition Isabelle Bourg des œuvres de Mary Wollstonecraft. C'est chez Garnier Classique. Et puis vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou sur le site internet de France Culture. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Demain, c'est Manu Farine qui officiera à cette même heure pour Poésie et ainsi de suite. Ses invités Alain Mabankou, Olivier Brossard et Mackenzie Orcel à l'occasion du Festival America. La semaine prochaine, nous irons voir ce qui se passe du côté de François Mauriac. Au sens propre comme au figuré, nous serons chez François Mauriac à Malaga pour une série d'émissions enregistrées en public demain et samedi. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Un grand merci à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar et Eva Le Sceau pour la préparation.